l'art pour tous. Cette donation est faite pour faire profiter tout le monde de ce travail de collectionneur que j'ai fait pendant 25 années et ma femme m'y a beaucoup aidé.
Dessine-moi une collection. Le podcast du Musée d'art moderne de Troyes, Collection nationale Pierre et Denise Lévy.
Marino, c'est un artiste peintre qui va découvrir le travail du verre.
Il crée ses verres très épais pour lesquels il devient mondialement connu.
Chaque verrier a sa propre recette, il y avait une très grande richesse de techniques et de procédés.
Épisode 10, Maurice Marino, le magicien du verre.
C'est un artiste qui joue un rôle majeur dans la collection.
Juliette Fèvre-Préda.
Pour plusieurs raisons.
Conservatrice du musée.
Déjà, nous avons un des plus grands fonds au monde de cet artiste. Près de 50 peintures, 151 verreries et plus de 1000 dessins, dont 500 rentrés en 2023. Ça a été un très grand ami des collectionneurs Pierre et Denise Lévy, qui sont à l'origine de la donation et de la création du Musée d'Art Moderne. Maurice Marino rend très souvent visite au Lévy et il croque tout ce qui lui passe sous la main. Cela permet d'avoir tout un fond documentaire où on peut voir la famille Lévy chez eux, on peut voir également l'ambiance de l'usine, les ouvriers qui arrivent à vélo, ou également les œuvres, leur installation dans le bureau de Pierre Lévy ou dans leur maison à Bréviante.
Radioscopie, avril 1976, Jacques Chancel reçoit Pierre Lévy.
Nous avons fait la connaissance de Maurice Marino, le peintre et verrier. Il a été d'abord peintre, et il est toujours resté peintre. Il a fait pendant 20 ans de la verrerie, tout en faisant de la peinture tous les soirs. Nous avons beaucoup bavardé avec lui, et alors il y a eu ce fait de l'achat d'une toile de Paul Cézanne, une petite toile, chez Madame Jacques, rue de l'Abbaye, je me rappelle comme hier, c'était en 1939. C'est l'achat qui m'a donné envie de faire la collection.
Marino se rend très souvent chez les Lévy, tous les mardis. D'ailleurs, la famille Lévy appelle ça les Mardino. Il donne des cours de dessin à Denise et à Martine, qui deviendra elle-même artiste. Et puis, Marino conseille Pierre et Denise dans les choix de la collection. Il les accompagne dans les ventes et il sera à leur côté pour l'achat de leurs premières œuvres, en 37, une œuvre de Friese, d'Outrio et une œuvre de Maurice de Vlaminck.
C'est dans une famille de bonnetiers troyens que Maurice Marino naît en 1882. Il étudie la peinture aux Beaux-Arts de Paris, il expose régulièrement à Troyes ainsi qu'avec les artistes fauves. Et il prend part avec eux au fameux scandale du Salon d'automne de 1905.
Ses couleurs sont vives, comme celles des artistes fauves, mais ses sujets, eux, se rapprochent plus des peintres impressionnistes ou nabis. On y retrouve des réunions de famille ou des portraits de femmes avec enfants. La critique de ses peintures est un peu mitigée et Marino décide finalement d'arrêter d'exposer. Il continue à peindre, mais il expose beaucoup moins ses peintures.
Ces critiques en demi-teinte sont finalement pour lui l'occasion d'aller explorer une nouvelle forme d'expression, l'art du verre.
Il découvre le verre en 1911 à la verrerie des frères Viard à Bar-sur-Seine. Ce sont des anciens camarades de classe. Et là, c'est vraiment une révélation pour lui. C'est en tant qu'artiste verrier que Marino deviendra par la suite mondialement connu.
Maurice Marino, qui fut peintre d'abord, continue de fixer au crayon ses émotions devant la nature, avant de les traduire dans le verre qu'il aime d'un amour passionné.
Il a un banc qui lui est dédié à la verrerie de Bar-sur-Seine et il décore les verreries qui sont dans un premier temps soufflées par d'autres. Il peut dessiner certains flacons et il les fait réaliser par les maîtres verriers.
Il va vraiment adapter au départ sa peinture.
Flavie Serrière est conservatrice, restauratrice de vitraux, artiste et présidente de la manufacture Vincent Petit.
Il va peindre sur des flacons avec des émaux. C'est une peinture extrêmement originale. Il va faire un peu évoluer la façon de peindre avec des émaux sur du verre creux en adaptant ses motifs de peintre.
Il connaît très vite un grand succès. Dès 1912, il participe au Salon d'automne à la Maison Cubiste, grand projet d'art total d'André Marre. Et puis l'année suivante, en 1913, ses verreries sont exposées sur le paquebot Le France et le font alors connaître aux États-Unis. La même année, en 1913, il signe une exclusivité avec le marchand Adrien Aurélien Hébrard qui organise plusieurs expositions personnelles dans sa galerie parisienne et diffuse également ses œuvres à Barcelone, Chicago ou encore à San Francisco.
La fin de la Première Guerre mondiale marque un tournant majeur dans son œuvre. Marino se met à souffler lui-même ses verreries et crée des verres très épais qui vont construire sa renommée mondiale.
Il va considérer que son verre, c'est pas un flacon, mais c'est justement une sculpture. Il va mettre au service du verre toutes ses capacités d'artiste et utiliser des tas de techniques, avec parfois des moules, de la gravure à l'acide, de la gravure à la roue, travailler la matière en profondeur pour changer la texture même du verre. Il va beaucoup utiliser des oxydes métalliques pour produire des bulles, par exemple, faire des nuages de bulles dorées, et puis travailler très en profondeur avec des textures tantôt très mates, tantôt très brillantes, en juxtaposant finalement parfois les deux. Et à la fin, il va utiliser du moulage à verre chaud, prendre le verre dans sa masse visqueuse, former ses verres en emmenant sa masse visqueuse comme ça, comme on emmènerait de la terre ou un autre matériau.
Dans ses œuvres, Marino porte à la fois un regard sur l'architecture moderne, à travers la simplification, une construction avec des angles très nets. Et également, il travaille sur la nature en tant que source d'inspiration. Il compare son travail du verre à une succession de couches géologiques. Il s'inspire des quatre éléments, mais également des phénomènes éphémères, évanescents, comme la transformation de l'eau en vapeur, la fumée, ou également les jeux de lumière qui peuvent découler des reflets dans l'eau.
Marino conçoit son travail comme une œuvre d'artiste et non d'artisan.
Il ne réalise que des pièces uniques. Il va refuser toute édition de multiples. La façon même qu'il a de travailler, très complexe, ne lui permet de toute façon pas de réaliser plusieurs œuvres identiques.
C'est une production finalement sur quelques dizaines d'années, mais dans cette courte période, il va produire plus de 2500 œuvres, toutes extrêmement originales, qui ont fait vraiment avancer l'art contemporain de la pratique verrière.
Les flammes qui ont éclaté ont pris de l'extension à une vitesse extraordinaire.
Plusieurs drames vont jalonner la vie de Maurice Marino. En 1935, le gigantesque incendie qui détruit la verrerie de Bar-sur-Seine. Deux ans plus tard, le décès de son marchand d'art. Maurice Marino abandonne alors le verre pour se consacrer uniquement à la peinture et au dessin.
Ici, Lens. Les Français parlent aux Français.
En 1944, à l'arrivée des Alliés, le couple Marino se réfugie dans la cave d'amis au centre-ville. Et quand ils ressortent, ils se rendent compte qu'un camion de munitions allemand a explosé devant leur maison-atelier, détruisant plus de 40 ans de travail, des milliers de peintures, de dessins, une centaine de verreries, également des lettres d'amis peintres, dont celle de Cézanne, toute une vie de travail.
Le musée d'art moderne de Troyes, dans son tout nouvel écrin, consacre un espace monographique à cet artiste majeur du XXe siècle.
On y retrouve ses peintures, ses verreries, avec une toute nouvelle présentation rétro-éclairée qui permet de mettre vraiment en valeur tout ce travail à l'intérieur du verre. Nous avons également créé un nouveau cabinet d'art graphique qui permet d'effectuer des rotations dans le fond et donc d'exposer assez fréquemment les œuvres graphiques de cet artiste.
Le verre et les vitraux occupent une place importante dans l'art troyen, un patrimoine hérité de l'art gothique de l'époque où Troyes, entre le XIIIe et le XVIe siècle, était très riche, c'était la cinquième ville de France.
C'est la période où, dans les églises, on donne une très large place au vitrail, au verre, si bien qu'on peut dire encore aujourd'hui que c'est une terre de vitrail et terre de verre extrêmement forte.
Thomas Morel est conservateur des collections d'art ancien des musées de Troyes.
On les produit ici, c'est-à-dire qu'il y a des ateliers en fait, qui sont affiliés aux différents chantiers. Chaque verrier a sa propre recette, il n'y a pas forcément de spécificité auboise de ce point de vue-là. Mais en revanche, avec tous les échantillons qu'on arrive à récupérer sur les différents édifices de Troyes et de la région auboise, on se rend compte qu'il y avait une très grande richesse de techniques et de procédés.
Aujourd'hui, ces techniques et ces procédés continuent d'inspirer, le vitrail contemporain continue à vivre.
On peut faire la connexion avec Marino.
Flavie Serrière.
Puisque comme dans le vitrail, on reprend finalement les éléments essentiels de la juxtaposition, de la transparence, de l'opalescence, de certaines couleurs, ou alors de camailleux incolores, mais très subtilement teintés. C'est la lumière, le principal matériau, et pour le vitrail, et pour les sculptures de Marino. Et la lumière va jouer avec la surface du verre. Donc c'est l'interaction de la lumière et de la matière qui va créer des jeux différents, des choses très lisses et brillantes, des choses mates, opaques. Et donc ça va se déployer de façon extrêmement subtile et scintillante.
Si la découverte des collections Marino au Musée d'Art Moderne aiguise votre curiosité pour l'art du verre et du vitrail, prenez le temps de prolonger votre visite dans notre magnifique cité médiévale.
Le musée des Beaux-Arts et d'Archéologie a été le réceptacle de nombreux vestiges des églises du territoire, et notamment de la collégiale Saint-Étienne, qui était rien moins que la chapelle du palais des Comtes de Champagne. Le musée des Beaux-Arts et d'Archéologie a la chance de conserver un très beau vitrail de cette chapelle, provenant d'ailleurs d'un grand ensemble qui est aussi représenté à la Cité du Vitrail. Au-delà de cela, le musée de la Renaissance en Champagne abrite en son sein une collection de vitraux assez riches qui pour le coup proviennent plus d'édifices du XVIe siècle, donc là encore beaucoup de constructions d'églises, de chapelles et des notables qui finançaient la construction de vitraux en se faisant représenter dessus d'ailleurs. Et puis l'apothicairerie qui nous mène à l'hôtel Dieu Le Comte qui aujourd'hui abrite la Cité du Vitrail qui propose pour le coup un vrai exposé sur l'histoire du vitrail.
Prochain épisode de Dessine-moi une collection, nous troquerons le verre pour la maille et les œuvres de Matisse.
Retrouvez l'agenda des expositions, conférences, ateliers du Musée d'Art Moderne de Troyes, Collection Nationale Pierre et Denise Lévy, sur les réseaux sociaux du musée et sur musée au pluriel -3.com.
Je crois que c'est Freud qui a décrit qu'un collectionneur est un malade.
Alors êtes-vous un malade ?
Je ne crois pas, puisque dès le départ, j'ai pensé que la réunion de tous ces objets, ces tableaux, ces verreries de Marino, devait revenir à la collectivité et à mon pays.